Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
J'aimerais parler au docteur Poirier. Merci. Je suis monsieur Barche. Merci. Allô, docteur? Bonsoir. Nous avons besoin de vos services. Ma belle-fille est malade. Non, rien. Un truc de bonne femme. Il faut que ce soit rien. Même si c'est grave, ce n'est rien. Vous serez très bien payé pour ça. Vous m'avez compris? Bien, à tout de suite. Merci, docteur.
Il raccroche. Puis, il sort de son bureau pour aller retrouver sa femme au salon. Elle est assise, il lui dit,
voilà, j'ai prévenu le médecin, il vient. Je lui ai dit que ce devait être quelque chose de peu grave.
Elle lui dit, mais si ça l'est,
il fera comme si. Remarque, si ça l'était et qu'elle disparaisse, ce serait une bonne chose. Pas de divorce, notre fils serait libéré, il pourrait se remarier.
Il lui dit, oui, mais, et les enfants?
Ce ne sont que des enfants. Et avant qu'ils ne soient adultes, il peut se passer des choses. Elle n'a pas de famille, je crois.
Elle lui dit, pas de famille, directe. Mais elle est des Pontois. Éloignée, mais tout de même. Des Pontois doivent être des rapaces. Ils voudront sûrement prendre ce que la famille devra avoir comme héritage.
Il lui dit, fâcheux. Et en plus, il y a ces deux monstres.
Elle lui dit, oui, deux monstres, comme tu dis. Et peut-être, ils vont s'entretuer.
Il lui dit, ce sont deux frères.
Elle lui dit, oui, mais cela n'empêche pas certaines choses. J'ai vu des choses. Ils sont dégénérés.
Il dit inquiet, si on apprend que j'ai des dégénérés dans ma famille, On va penser que nous sommes des dégénérés et que notre sang est impur, malade. Cela est mauvais pour ma carrière.
Ne te fais pas de soucis. Je les surveille. L'un est un élève de premier ordre, très sage et même trop sage pour certains. L'autre est merveilleux de vie, de camaraderie, de sociabilité. Ils jouent merveilleusement bien la comédie tous les deux. Il lui dit, « Oui, mais pour s'en débarrasser ?» Elle lui dit, « Je les ferai s'entre-détruire tous les deux, en les rendant jaloux. Je les ai bien étudiés, connais leurs petits faibles. » Il lui dit, « C'est très bien, mais ne disons rien à notre fils. Travaillons pour lui sans le lui dire. Bon, ça va ? Bien, mais nous verrons. Peut-être qu'elle n'a qu'une petite chose de rien du tout. » Elle lui dit, « Si ça pouvait être grave. »
Le docteur Poirier seul chez eux. C'est un jeune homme de 30 ans, visage fin, très doux, cheveux châtains qui ondulent, porte un costume gris et a une mallette de cuir noire. Se dégage en lui quelque chose qui attire sa beauté. Dis à la bonne qui lui a ouvert. Je viens voir Madame Antoinette Bache. Elle lui dit, bien monsieur, si vous voulez me suivre. Elle le mène jusqu'à la chambre d'Antoinette. Il est surpris que la chambre se trouve dans la partie service de l'appartement. La bonne frappe.
Entrez.
Elle entre et dit, c'est le docteur, madame.
Bien, faites-le entrer, merci.
La bonne fait l'entrée, le médecin ferme la porte.
Madame, bonjour docteur.
Il s'approche du lit. Et il l'ausculte, la trouve très lasse, remarque des choses. Après l'avoir ausculté, il lui dit, « Il faudra venir me voir à la clinique Jaunetout-Riquin. Je vous ferai faire des examens. » Elle lui demande, « Est-ce grave, docteur ?» Il lui répond, « Je ne peux pas le savoir. Après les examens, je le saurai mieux, mais je ne le pense pas. Je vais vous donner un petit calmant en remontant. Et puis, il faudra simplement vous reposer. Beaucoup de repos. » Il prend son agenda et dit, « Venez me voir dans une semaine. Le vendredi, 10h à 15h, à la clinique. Il y aura à peu près 2 heures de visite, d'auscultation. Allez, au revoir madame, à vendredi. » Et il sort de la chambre en laissant l'ordonnance sur la table de nuit. En se dirigeant vers la sortie, il tombe dans le couloir sur Auguste qui lui demande, «
Alors, docteur,
le médecin lui dit, elle me sent bien malade.
Qu'a-t-elle?
Je l'ai convoquée pour des analyses à la clinique. Auguste lui dit,
vous savez que je suis actionnaire de la clinique et n'a rien et ne doit rien avoir.
Le médecin lui dit, et pour la soigner,
juste ce qu'il faut.
Bien, monsieur. Auguste lui dit,
vous serez très bien récompensé.
Bien, monsieur. Et le médecin le quitte.
Auguste a retrouvé sa femme à la salle à manger pour le repas du soir. Il y a ses deux fils, ses deux petits-fils, qui sont à table. Lui va s'asseoir. Il dit,
elle n'a pas grand-chose.
Il fait de l'œil à sa femme et lui dit,
je crois que ses affaires vont s'arranger.
Frédéric demande, maman est malade?
Auguste dit, oui, mais ce n'est pas bien grave. Laisse-la en paix pour le moment.
Il dit à sa femme,
qu'elle reste au lit, qu'on lui apporte ses repas dans sa chambre et qu'on la laisse tranquille. Elle doit avoir des médicaments à prendre. Envoie le domestique à la pharmacie avec l'ordonnance.
C'est ce qui a été fait. Les enfants ont reçu l'ordre de ne pas voir leur mère. Il faut qu'elle se repose. Lorsque Pierre revient d'un voyage d'affaires, Auguste lui dit,
« Ta femme a une faiblesse. Il faut qu'elle se repose. »
« C'est grave ?» Auguste lui répond,
« Pas encore. On lui fait des analyses. Elle est dans sa chambre. Il faut la laisser se reposer. Il faut peut-être t'attendre à des changements dans ta vie. Tu as fait un mauvais départ. » Mais ça peut s'arranger. Tu es d'accord avec moi?
Pierre lui fait, oui, bien sûr, père.
As-tu fait des connaissances intéressantes dans tes voyages?
Non, pas vraiment.
Ta mère te présentera à des personnes. Mais enfin, nous verrons. Ce ne sont que des projets.
Antoinette est soignée juste ce qu'il faut pour avoir une longue descente paisible. Lorsqu'elle dit qu'elle a mal, sa belle-mère lui dit
« C'est le retour d'âge. Il faut assumer. Il faut que le corps reprenne sa place. »
Elle est toujours très faible. Elle reste allongée des journées entières dans son lit. Personne ne vient la voir même pas ses enfants. On leur a interdit d'aller la voir. Ils aimeraient bien la voir, mais ça leur a été interdit. Les deux frères continuent à avoir les mêmes relations entre eux. Tout le monde le sait, même les domestiques, mais personne ne fait ce qu'il faut pour aider Frédéric. Frédéric qui grandit, mincit, a le visage très fin, doux, blond, cheveux qui ondulent, yeux bleus, visage fin, petit nez. Il y a quelque chose de très délicat et élégant en lui. Son frère, lui, ressemble, mais il est plus grand, un peu plus fort. Son visage est fin, cheveux châtains qui ondulent, petit nez, bras et mains très minces. Il est beau, mais un regard très froid. Auguste donne beaucoup de travail à son fils pour qu'on ne puisse pas penser à sa femme et donne des soirées. Il présente des femmes. Pierre se laisse guider par ses parents. Son père lui dit « Tu comprends, il faut penser à ton avenir. » « Bien, père. » Il laisse faire. Il sait que son avenir, c'est la disparition de sa femme. Il va voir sa femme une fois par semaine, dans sa chambre.
Frappe à la porte de la chambre et entre.
Bonjour.
Bonjour.
Il s'approche du lit.
Se penche, l'embrasse sur le front, s'assoit sur le rebord du lit et lui demande « Tu vas mieux ?» et lui dit « Je suis toujours aussi lasse. » Il lui dit « Il faut patienter. »
Ils n'ont pas grand-chose à se dire. Elle, confinée dans sa chambre, il ne lui arrive rien et lui, ses pensées sont hors de la chambre. Elle souffre de le voir comme ça, comme s'il venait en visite chez une étrangère. Elle l'aime encore. Elle aimerait qu'il s'occupait d'elle, qu'il s'inquiétât de sa santé. Mais non. Elle voit qu'il s'ennuie auprès d'elle. Ça lui fait du mal. Cela fait des mois qu'il ne l'a pas prise dans ses bras. Pourtant, il pourrait, cela ne la fatiguerait pas, et puis elle n'est pas contagieuse. Mais non, il ne la caresse même pas. Il la torture à mort, sans la torturer, sans la toucher, et agit comme son fils qui torture son frère en le touchant. Ça mène à la même chose. Ses enfants lui manquent aussi. Elle se demande pourquoi on l'empêche de venir la voir. Elle entend leur voix dans le couloir. Elle aimerait leur dire de venir la voir, mais elle n'ose pas. Frédéric, sa mère lui manque. Eric aussi, mais il est heureux que son frère ne puisse la voir. Le temps passe. Elle est suivie par le docteur qui est bien payé par Auguste. Il la soigne sans la guérir. Elle reste toujours allongée dans sa chambre, dans le noir. Lorsqu'elle le peut, elle lit pour se distraire un peu. L'été, toute la famille va au château et l'on dépose la malade dans sa chambre à la tour avec ses enfants. Là, elle reste la journée dans un fauteuil près de la fenêtre. Pierre se fait à l'idée de perdre sa femme et même ses enfants. Son père est toujours à lui dire dans le parc. Ce serait bien si tu étais libre. Tu pourrais faire des tas de choses, etc. Malheureusement, elle est malade. Tu ne peux divorcer. Pour te libérer, il n'y a qu'une chose. C'est que tu deviennes veuf. Et puis, il y a tes enfants. Des enfants, ça peut être une entrave pour se remarier. Pierre lui dit, que faire? On ne peut pas divorcer de ses enfants. Auguste lui dit, non, malheureusement. Pierre rêve de plus en plus d'être libre et de refaire sa vie. Il va de moins en moins voir sa femme. Il la tue comme ça. Et son fils tue son frère en faisant le contraire. Frédéric, malgré qu'il veut rester froid, supporte de moins en moins son frère qui vient dans sa chambre. Il ne peut fermer la porte à clé et n'en a pas. Eric est de plus en plus pesant. En devenant grand, il lui en fout de plus en plus et est de plus en plus fort. Ses besoins deviennent de plus en plus violents et terribles. Comme il n'a pas de limite à ce qu'il fait, il peut il ne peut les limiter à la réalité et basculer dans un monde à lui. On peut dire d'une façon simple qu'il devient fou. Ne voit plus la différence entre ses fantasmes et la vie réelle, et son frère en est la victime. Pourtant, malgré tout, comme je l'ai expliqué, inconsciemment il l'aime. Mais comme cet amour, il en a peur et honte, un homme ne doit pas détester un autre, ne doit pas désirer un autre homme. Il en fait une haine de plaisir. Frédéric, il y a des nuits où, avec des gestes violents, il veut le repousser, le faire partir. En grandissant, il devient plus fort, mais son frère aussi, ce qui fait qu'il y a des luttes de plus en plus violentes. De plus en plus violentes entre eux. Mais malheureusement, plus il grandit et plus la... la jouissance
vient malgré lui et grandit. Et cette jouissance étourdit Frédéric, lui trouble la vue. Les lèvres de son frère sur son ventre et lui font perdre conscience. Conscience. Conscience renversée. Et après, houleuse contre son frère. Tandis que pour Eric, il a une jouissance bestiale. Et il est assouvi après. Des soirs dans la chambre, ils se battent violemment. Frédéric veut le sortir de son lit. Tout le monde doit entendre ces bruits dans la nuit et personne ne bouge. Dans la journée, chaque fois qu'Eric le croise et le pince, le mord et lui dit « Tu es à moi, petit frère, tu es à moi. » Des fois, Eric crache dans son verre. Et une fois que Frédéric a bu, il lui dit. Frédéric se lève et sort en courant de la salle à manger pour aller dans la salle de bain vomir. Frédéric, lorsqu'il passe devant la chambre de sa mère, il a envie, c'est d'y entrer pour se réfugier près d'elle. Son amour pour elle grandit de jour en jour. Malheureusement, il n'ose pas y rentrer. parce qu'il a honte et ne saurait quoi lui dire. Une fois, pour la fête des mères, il a un peu d'argent de poche et veut lui acheter quelque chose. Il ne sait pas quoi. Fait les magasins à la sortie des cours. Il décide de lui acheter un mouchoir blanc brodé. Une fois la chose achetée, il en a honte et trouve ce cadeau ridicule. Il n'ose pas le lui donner. Il garde le mouchoir dans sa poche. Et un jour, il ne sait pas ce qu'il est devenu. Peut-être qu'une bonne l'a prise pour elle ou a pensé qu'il devait être à sa mère et l'a mise dans les mouchoirs de sa mère. Frédéric, sa mère, lui manque aussi beaucoup. Et Eric aussi. Mais il ne le montre pas. Et puis la compensation que son frère ne la voit pas. Comme ça, sa mère n'a pas d'amour à lui donner. Le temps passe. Frédéric devient un beau jeune adolescent. Il supporte de moins en moins la vie de sa famille. Son frère, il aimerait le tuer. Après les cours, il n'a pas envie de rentrer. Il fait durer le trajet de plus en plus longtemps. Un soir, en marchant dans les rues, au hasard, il se dit « Je ne rentrerai pas ». Il décide de ne pas rentrer sans se poser de questions. Marche dans les rues, au hasard. La nuit commence à tomber. Il y a de moins en moins de passants. Il a faim, il entre dans une épicerie. Il achète une tablette de chocolat. Tout en marchant et en mangeant, il se dit « Ce serait bien de ne pas avoir de famille, d'être libre, personne, de devoir des comptes à personne, de vivre en dehors de la société, vivre comme ça, fils de personne, quelle chance. Les parents devraient nous abandonner, et puis à quoi ça sert ?» d'en avoir des parents. C'est vrai, ça.
Pourquoi sommes-nous obligés de les aimer et eux de nous aimer? Tout ça, c'est de l'hypocrisie.
La nuit est complètement tombée. Il commence à être fatigué, décide de s'asseoir, va à la gare de Lyon, parce qu'il est sous le boulevard de Lyon. Là, il s'assoit à salle d'attente. Il y a du monde, surtout des vieux. Ce sont des vieux, sales, tristes, sûrement de pauvres gens qui ne savent pas où passer la nuit. Ils ont des cabas et des sacs en plastique, plein de choses qu'ils transportent toute la journée. Frédéric se sent gêné au milieu de tous ces gens qui sont sales et vieux. Il n'ose pas trop les regarder, il a honte et pitié. Pitié surtout de cette vieille femme. Cette vieille femme habillée d'un manteau rouge, des bottes noires, les cheveux gris pendants, la tête osseuse, elle est très maigre, remue le corps d'avant en arrière, constamment. Frédéric se dit qu'elle doit être malheureuse. Et ne sait pourquoi cette femme lui rappelle sa mère. Ça lui fait mal. Ça lui fait mal et ému d'être près d'elle. Et il aimerait l'aider, lui prouver son amour. Il a envie de pleurer. Pauvre maman, seule et malade. Et pourquoi cette femme lui rappelle-t-elle sa mère? Elle n'est pas comme elle, sa mère. Elle est belle. Elle ne traîne pas dans les rues. Mais peut-être. Mais elle, elle a le même regard de désespéré, de désemparé que sa mère. Frédéric a la gorge serrée. La lumière, le bruit de la gare, les gens qui vont, viennent, il ne peut ni dormir, ni se reposer. Puis il est gêné au milieu de ces gens. Le temps passe. La femme continue à aller de l'avant en arrière. Il a envie d'aller à elle et lui demander quelles sont ses pensées. Mais il n'ose pas. Un jeune homme, habillé d'un costume gris bien coupé, chemise blanche, cravate rouge, s'assoit à côté de lui.
Il a un visage très beau, des traits fins, un petit nez. Yeux bleus, cheveux châtains, courts. La tête un peu allongée, Frédéric se dit. Il doit avoir dans les 18 ans. C'est un vieux déjà. Le jeune homme lui demande « Tu attends le train ?» Frédéric lui dit « Oui, moi aussi. Je rentre chez ma mère. Je viens de terminer mes cours d'art dramatique. Je veux être comédien. » Frédéric est surpris. Un artiste ? Il n'aurait jamais cru qu'un comédien prenait le train. Le jeune lui demande « Et toi ?»«
Moi, je suis au lycée. »
Le jeune homme lui dit « Tu rentres bien tard, » Frédéric lui dit. « Oui, il n'aime pas qu'on lui pose des questions. » Qu'est-ce qu'il lui veut, ce vieux ? Les vieux, il faut toujours qu'ils s'occupent de ce que font les jeunes. Les vieux de 18 ans sont plus chiants que les autres, parce qu'ils jouent aux adultes. Et ils ont l'air cons. Il se lève et quitte la salle d'attente. Il entend derrière lui « Hé, ton cartable !» Frédéric se retourne et voit l'autre avec son cartable à la main. Il court à lui. « Tiens !»«
Merci !»
Le jeune lui dit « N'ai pas envie d'entrer chez toi, hein ?»« Je m'appelle Laurent. Et toi ?»«
Frédéric. »«
Tu sais où aller ?» Frédéric fait la moue et lui dit « Non. »
Laurent lui dit « Je te comprends. »
Moi aussi. Je n'ai pas envie d'entrer chez moi. Tiens, allons prendre un verre. Et ils sortent de la gare.
Et vont au café, brasserie, restaurant glacier qui est face à la gare.
Il y a encore du monde. Trouve une place et commande deux jus de tomate. Laurent lui dit
« Moi, je ne veux pas rentrer chez moi, parce que c'est triste. Mes parents sont tristes. Tout est triste. Ça me fout le cafard. Je vais pouvoir sortir de ce monde. Aller dans un monde beau, riche, bien. Des fois, je me promène dans les beaux quartiers et je me dis « Ah, si je pouvais vivre là !» À la sortie du lycée, j'aimerais être comme ces jeunes bien mis qui ont tout. Des fois, j'aimerais c'est qu'un homme riche puisse s'occuper de moi, un peu comme si j'étais son fils. Je ne sais pas pourquoi, c'est un homme. Pas une femme. Je veux être comédien, c'est pour pouvoir sortir de ma vie médiocre et aussi changer de vie
en jouant la comédie. Dans le monde réel, on ne peut pas changer de vie comme ça. Mais au théâtre, oui. Du jour au lendemain, on peut être roi, ou médecin, ou rien. Et toi ?
Frédéric lui dit, moi aussi, c'est la même chose. Je veux changer de vie.
Laurent lui demande, toi aussi, tu es d'un milieu modeste ?
Non, pas du tout, bien au contraire. Nous avons même un château, enfin, c'est mes grands-parents qui l'ont.
Tu en as de la chance.
Oh non alors, ma mère est très malade, mon frère est un salaud, il me fait des horreurs, mon père est toujours en voyage, mes grands-parents nous ignorent.
Laurent lui dit, oui mais tout de même, à côté de moi,
tu as le luxe.
Frédéric lui dit, tu parles.
Je veux changer de vie, partir, loin, ne plus les voir, je les déteste.
Moi et mes parents,
je crois que nous sommes tous logés à la même enseigne.
L'on dit tu es le père.
Frédéric lui dit, et le frère ?
Ça s'est déjà fait.
Laurent lui dit,
si tu veux, nous pouvons être amis, tu seras mon ami riche.
Frédéric lui dit, et toi, mon ami pauvre ?
Non, plutôt confident.
Après avoir bu leur verre, Laurent demande, que faisons-nous ?
Frédéric lui dit, je ne sais pas, c'est long la nuit.
Laurent réfléchit, lui dit,
tu vas venir chez moi, comme ça tu verras comment j'habite, et peut-être que plus tard, tu me montreras chez toi.
Et tu dis, je veux bien aller chez toi, mais je t'inviterai sûrement pas chez moi, parce que je ne veux pas y retourner.
Et ils sortent du café.
Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.